Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, nous vous dévoilons avec Monique Younes le nom de l'ouvrage qui reçoit le prix de la bande dessinée RTL de l'année 2017. Un album que nous vous offrirons au 3210. Coco, le nouveau film d'animation des studios Disney Pixar, sort mercredi au cinéma et s'annonce comme le succès de cette fin d'année. Coup de cœur de Stéphane Boutsock qui a rencontré l'équipe du film et notamment Harry Habitant, une des voix françaises de ce film. On prendra connaissance de nos express préparés par Olivia Leray. Et puis à la télévision ce soir sur Canal Plus à 21h, Paris, etc. Une nouvelle série sur le quotidien mouvementé de 5 femmes avec Valéria Bruni-Tedeschi et Zabou Breitman. Zabou en est aussi la réalisatrice. On l'entendra au micro d'Isabelle.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous nous annoncez ce matin le Grand Prix RTL de la bande dessinée 2017, prix décerné par un jury de journalistes d'RTL, de libraires et d'internautes qui couronne la meilleure bande dessinée de l'année. Et c'est à l'unanimité que La Terre des Fils de l'auteur italien J.P. a décroché ce Grand Prix. Et vous en êtes très fier.
Oui, extrêmement fier parce que J.P., de son vrai nom Gian Alfonso Pacinotti, est un immense dessinateur et un conteur hors pair. C'est une star en Italie. Il habite à Rome où il dessine ses albums et réalise ses films. Il est actuellement en tournage de son prochain long métrage, Le garçon le plus heureux du monde. Et en France, nous l'avons découvert il y a juste 10 ans, où son album, Note pour une histoire de guerre, avait décroché le prix du meilleur album au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et jusque-là, J.P. nous avait habitués à des albums autobiographiques. La Terre des Fils est sa première fiction, donc première question, mais pourquoi donc J.P.?
Je suis arrivé à 52 ans et je me suis dit, il faut arrêter de... Comment si dice, rompere i coglioni a tutti con i cazzi tuoi.
Il faut arrêter de casser les couilles à tout le monde.
Avec mes affaires. Parce que quand tu fais de l'autobiographie, en fait, c'est ça que tu fais. Tu donnes ta vie à les autres et tu dis, s'il te plaît, aime-moi. Et je me suis dit que t'es pas une bonne chose. Et aussi, je me suis dit, il faut voir si tu es capable de faire une histoire que c'est seulement une histoire. Et moi, je suis très content, et très soulagé aussi, parce que j'avais vraiment très peur.
J.P., traduit par Hélène Deniol-Remaud, n'avait aucune raison d'avoir peur, tellement son album La Terre des Fils s'impose à tous comme une réussite absolue. Je résume, nous sommes dans un monde où tout a disparu, les rares rescapés vivent sur une terre aride, ils respirent un air saturé de mouches et évitent de boire l'eau empoisonnée, et c'est dans ce décor apocalyptique qu'un père élève ses fils. Il sait qu'il ne sera pas toujours là pour les protéger, alors il les prépare à cet avenir terrible en les élevant à la dure. Pas de mots doux, pas de gestes tendres, il ne leur apprend ni à lire, ni à réécrire. Il les frappe quand ils ne font pas ce qu'il leur demande.
Bon, comme dirait ma fille, tout cela n'est pas très joyeux si je comprends bien.
Non, ce n'est pas joyeux du tout, du tout. Non, ça qui est passionnant, Yves. J.P. ne fait aucune concession à la méchanceté humaine, pour la bonne raison que c'est au fond d'elle qu'il va chercher ce qui nous reste d'amour.
Au début, j'avais eu cette idée d'un homme qui aime ses fils, mais qui ne peut pas dire à ses fils qu'il aime. Un amour muet.
Est-ce qu'on peut dire que votre père était taiseux comme ça? Il n'exprimait pas ses sentiments?
Non, je pense qu'il n'a rien à voir avec mon vrai père, qui en fait était un homme très gentil. Il n'était pas du tout comme le personnage du livre. Mais dans les dernières années, je me suis posé beaucoup de questions sur la qualité de l'amour que j'ai reçu quand j'étais petit et tout ça. Et je ne suis pas arrivé à savoir si les personnes de ma famille m'aimaient vraiment ou moins. Mais en fait, pour moi, c'était très important d'arrêter de me poser cette question. Il faut grandir. Et c'est ça que j'ai mis dans l'histoire.
L'amour que le père voue à ses fils, c'est son jardin secret. Il écrit sur un cahier tout ce qu'il ne peut pas dire à ses fils et que ses fils ne pourront jamais connaître puisqu'ils ne savent pas lire. Et ce cahier est au centre de l'intrigue de cette histoire. Car lorsque le père meurt, les fils n'ont de cesse de trouver quelqu'un qui sait lire et leur dira ce que le père a écrit. Commence alors leur voyage initiatique à travers cette terre désolée, dangereuse, violente que J.P. dessine forcément en noir et blanc.
Je déteste la violence dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup la raconter en fait. Et je voulais essayer de faire des scènes de violence qui ne fossero di stampo americano.
Des scènes de violence qui ne soient pas calquées sur le modèle américain?
Oui, le modèle américain, la violence, c'est quelque chose très légère. Non? Tu sais, tu peux prendre des coups dans la tête, ça ne fait rien. Tu peux mourir, ça n'importe pas. Et alors, c'était très difficile. C'était comme en recherche pour moi de faire des dessins où il y avait de la violence, mais il n'y avait pas cette beauté de la violence.
JP ne cherche pas à inspirer une compassion facile. La violence qu'il décrit est psychologique, morale, jamais esthétique. Encore moins complaisante, elle est inhérente au drame de ses enfants perdus et constitutive d'un monde qui touche à sa fin.
Dites-moi, il parle de nous, j'ai l'impression.
Mais en tout cas, tout ce que JP raconte paraît terriblement réel. C'est peut-être pour ça qu'il termine son album, comme par épuisement, sur une note optimiste.
Moi, je suis toujours optimiste dans les livres, mais j'ai mis mon optimisme dans des ambiances un peu dures, c'est vrai. Souvent, quand je fais les livres, je me trouve avec les personnages qui disent des choses que je n'avais pas pensées. Et ça, en fait, c'est une chose que j'aime beaucoup. Parce que quand ça arrive, quand le personnage se rebelle à moi, ça me fait beaucoup de plaisir, parce que ça veut dire pour moi qu'ils ont pris un peu de vie.
Alors, les dernières cases de La Terre des Fils sont d'une grande tendresse. Grâce à une femme qu'on appelle la sorcière, quand vous refermerez l'album, vous saurez que vous venez de terminer un album pas facile, mais fichtrement beau. C'est pourquoi nous sommes vraiment très fiers que La Terre des Fils, édité par Futuropolis, remporte le grand prix de la bande dessinée RTL 2017.
À l'unanimité, je le rappelle. Et nos auditeurs peuvent gagner ce matin La Terre des Fils de JP, édité par Futuropolis, à condition de répondre à la question suivante.
De quelle nationalité est JP ? Italienne ou espagnole ?
On est vraiment gentil. On
ferait un super scénario de film.
Oui, vous avez raison, absolument. Ouais. Dans quelques instants, on se retrouve avec nos audiences télévisées et ensuite Olivia Leray pour Les Express.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Et les audiences télévisées de notre week-end avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Oui. Vendredi, victoire de Koh-Lanta qui remonte et frôle à nouveau les 5 millions de finales sur TF1 devant L'Art du Crime qui en retient 3 900 000 sur la 2. Résultat classique. Ça n'est pas le cas samedi où le polar de la 3 à Mongeville, création de Jacques Santamaria, est en tête avec 4 400 000 téléspectateurs.
Bravo,
devant la 2 et son match de rugby France-Japon dont vous en déduisez logiquement que Danse avec les stars est troisième seulement sur la 1 avec 180 000 fidèles de moins que la 2. Quant ailleurs, et ben les dinosaures, ça rapporte toujours gros à TF1 de nouveau. Plus de 5 millions de fanas étaient devant Jurassic World sur la 1, donc, et plus de 4 120 000 devant Les Enquêtes de Vera sur la 3, qui n'est pas une dinosaure. On va pas dire ça.
Bon, très bien, ben voilà.
Les Express LVT.
Nos Express du jour préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour.
On vous révèle ce matin, dans Laissez-vous tenter, une info télévisée. Julie Depardieu sera bientôt un médecin sur France 3.
Oui, la comédienne vient de débuter le tournage de La Légiste en Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, elle y jouera le rôle d'un médecin légiste qui s'est donné pour mission de rendre un visage humain au cadavre qui passe entre ses mains. Pour ça, elle mène ses propres enquêtes, en dépit des recommandations de son équipe ou des mises en garde d'Antoine Doineau. C'est le commandant de la PJ joué par Bernard Rierle. Le titre de cette fiction pilote, Cadavres exquis.
Elle présidera les Globes de Cristal en février prochain. Isabelle Huppert se confie dans Laissez-vous tenter.
La soirée récompense les gagnants de l'année. Musique, cinéma, télé, théâtre. Isabelle Huppert était au palmarès l'année dernière pour ce rôle dans le film Elle de Paul Verhoeven. Et Isabelle Morini-Bosque lui a demandé si elle se sentait privilégiée de passer de primée à présidente et de monter en quelque sorte dans l'échelle sociale.
Vous me laissez muette. C'est une belle cérémonie qui récompense tous les talents. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour le dire cette année parce que je l'ai reçue moi-même l'année dernière. Mais les talents hexagonaux, francophones, internationaux, toute cérémonie qui célèbre le cinéma français et la bienvenue. Le cinéma a toujours besoin d'être honoré, d'être soutenu, célébré. Voilà le mot que je cherchais.
Oui.
Et une cérémonie comme ça, forcément, soutient le cinéma.
Et alors, quelle présidente vous allez être ?
Oh ben, je crois que la présidente, on lui demande simplement, c'est un rôle vraiment facile à tenir. On lui demande juste d'être là, d'adouber l'événement et de sourire.
Isabelle Huppert avec Isabelle Morini-Bosque.
Jude Law pourrait bien rejoindre le prochain Marvel.
Selon le site américain Variety, l'acteur phare d'Hollywood devrait incarner le docteur Walter Lawson, le mentor de Captain Marvel dans le film qui sortira en mars 2019. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Captain Marvel, incarné par Brie Larson, est une super-héroïne à la force surhumaine et Walter Lawson lui apprend à gérer ses pouvoirs.
Alors, son nom, comme d'habitude, a été bien abîmé ce matin à l'antenne d'RTL. Notre très belle Iris Mittenaer, mais oui, ou
Mittenaer.
Je viens encore de l'abîmer une fois de plus. Il est officiellement plus Miss Univers. Allez hop, fini.
The new Miss Universe is South Africa.
Et voilà, à Las Vegas, dans une longue et brillante robe rouge, Iris a remis cette nuit la couronne à Miss Afrique du Sud, Demi Leitnell Peters, 22 ans. Grosse déception pour notre Française Alicia Liès de 19 ans qui n'a pas été sélectionnée dans le top 16.
Oui, enfin, nous, on a notre Miss, laissez-vous tenter, elle s'appelle Olivia Leray.
C'est pas...
ambiance mexicaine. Pour commencer, pour continuer cette émission, bonjour Stéphane Boutsock.
Buen dias.
C'est très bien. C'est en effet au Mexique que se déroule l'action de Coco, le nouveau film d'animation des studios Disney-Pixar qui sort mercredi au cinéma.
Ouais, rappelez-vous le Mexique où j'étais il y a presque un mois pour rencontrer l'équipe de ce conte sur la transmission, le souvenir des anciens, film qui imagine comment Miguel, ado passionné de musique, va, à la faveur d'un sortilège, passer dans le monde des morts, partir à la recherche de ses ancêtres et découvrir aussi le secret de sa famille. Celui qui incarne Miguel est un gamin d'une douzaine d'années, Andrea Santa Maria, dont on avait déjà entendu la voix dans Le Petit Prince, autre film d'animation. C'est lui qui vous raconte la suite des aventures de son personnage.
Son idole s'appelle De La Cruz et en fait c'est le meilleur musicien et chanteur de tout le Mexique. Et un soir, il va vouloir absolument jouer parce que c'est sa seule occasion de pouvoir jouer devant des gens. Sauf que sa grand-mère lui a cassé la guitare. Et la devise d'ailleurs de La Cruz, c'est saisir l'opportunité, comme il dit dans le film. Donc il va aller voler la guitare de La Cruz. Et dès qu'il va toucher cette guitare, il va basculer dans le royaume des morts. Et c'est là où il va rencontrer toute sa ancienne famille. Et notamment Hector, que joue Harry Habitant. D'ailleurs, qui joue très très bien. Et eux deux vont s'aider mutuellement dans cette histoire. Tu me rends un poco loco, un
poquitito loco. Je suis un homme amoureux. Et oui, Andrea est aussi guitariste et chanteur, comme Miguel dans Coco. Et c'est lui qui interprète cette chanson Poco Loco dans le film.
Dites-moi, cette histoire de passage dans le monde des morts, c'est pas un peu rude pour un film d'animation destiné plutôt aux jeunes spectateurs?
Alors, tout dépend comment c'est fait. Si vous regardez d'autres films Pixar, je pense à Là-haut, par exemple, qui parlait quand même de vieillesse et de deuil. Regardez Toy Story, le sentiment d'abandon ressenti par de vieux jouets. L'originalité de la firme californienne, c'est d'aborder la réalité de la vie au travers de contes initiatiques dans lesquels tout le monde se retrouve, les jeunes comme les adultes. Autre thème de Coco, la volonté d'accomplir ses rêves de jeunesse, même si les parents parfois ne sont pas toujours d'accord. Miguel veut absolument faire de la musique. J'ai demandé à Adrián Molina, co-réalisateur du film, mexicain d'origine, de me parler de son parcours à lui et de la manière dont ses parents avaient accueilli son souhait d'être dessinateur.
À l'école primaire, je voulais faire du stand-up, mais en arrivant au lycée, j'étais très timide et j'ai su que ça ne marcherait jamais. En fait, j'ai toujours aimé dessiner et j'adorais les dessins animés de Walt Disney, et quand j'ai compris qu'il y avait des gens dont c'était le métier, j'ai su ce que je voulais faire. Je dois remercier ma famille de ne s'être jamais demandé si c'était reconnu ou simplement une bonne idée. Ils m'ont toujours soutenu, aidé à aller dans les bonnes écoles et acheter les meilleurs crayons. Je peux imaginer comment ça se passe dans une famille comme celle de Miguel, où il doit se battre à chaque pas de son chemin. Il y a plein de gens qui connaissent ça. Et ça ralentit considérablement les choses en les rendant douloureuses. Moi, j'ai eu beaucoup de chance.
Alors, comme tout bon film d'animation, Coco peut aussi compter sur un casting de voix solide. Dans la version française, vous croiserez François-Xavier de Maison en mariachi.
Très bien.
Et surtout, Harry Habitant dans la peau, ou plutôt les os, d'Hector, un des personnages du monde des morts qui va aider Miguel dans son aventure.
C'est d'une immense profondeur. C'est philosophique. C'est-à-dire que, oui, les gens ne sont pas morts à partir du moment où on se souvient d'eux, à partir du moment où on parle d'eux, à partir du moment où on raconte des anecdotes. Donc, c'est l'amour du prochain, même s'il est dans l'au-delà. C'est en fait une vraie histoire d'amour, c'est un vrai voyage. Et c'est surtout aussi sur la transmission et sur le fait qu'il ne faut pas oublier.
Seule frustration pour Harry Habitant, ne pas avoir pu lui-même pousser la note sur une des chansons du film.
Ah oui, vous m'avez entendu chanter déjà. Alors évidemment, j'aime chanter, mais j'aime chanter au service d'un sketch. Mais là, j'ai dû énormément travailler pour interpréter de vraies chansons, donc avec de vraies mélodies, et puis aussi de les jouer, parce qu'il faut jouer. En fait, ce n'est pas uniquement de chanter la chanson, c'est l'interpréter au service aussi du dessin, parce qu'il y a le dessin animé qui est là, qui passe quoi, en même temps que tu chantes.
Ne m'oublie pas, c'est à regret que je pars. Ne m'oublie pas, quand tu entendras une guitare.
Ne m'oublie pas, chanson phare du film Coco des studios Disney-Pixar, un des champions annoncés du box-office de fin d'année. C'est le record absolu des entrées cinéma au Mexique. Le film est sorti il y a un mois. Ça a très très bien démarré aux États-Unis ce week-end. Et rendez-vous compte, le film est projeté depuis 15 jours sur l'écran du Rex à Paris. Donc une seule salle et déjà plus de 50 000 entrées.
Un petit coup de trompette. Ah ben,
évidemment.
Bien, hein. Allez, dans quelques instants, la télévision, Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
La télévision de ce lundi soir, Isabelle Morini-Bosque. On rappelle évidemment Mariée aux premières gares sur M6, dont vous me dites que l'audience progresse.
Oui.
Mais votre gros plan, eh ben c'est le nouveau feuilleton, la nouvelle série de Canal+, Paris, etc.
Oui, un ovni, objet visuel non imitable. Le quotidien de cinq parisiennes entre crise de nerfs et crise de rire, crise de foie aussi, soit une tragicomédie réussie en 12 épisodes de 30 minutes dans lesquels sont glissées des images d'archives de parisiennes d'hier et d'avant-hier, sorte d'image subliminale, Le Parisien a pas aimé, moi si, et Chantilly.
La Parisienne, parmi tous les articles de Paris, et quel que soit son milieu social, elle a un naturel qui est un style. C'est peut-être un mythe, mais on lui fait crédit.
Toutes ces petits trucs qui font que c'est toi.
On lui prête de la sensualité.
Toutes ces petites choses qui font qu'avec toi.
On lui prête de la liberté, mais aussi, on lui prête de l'esprit.
Paris, c'est pour les bagnoles, là, il y a la marque des vélos.
Voilà.
Oh, ça fait du bien.
Je préviens, oui. Scène d'ouverture très culottée. Enfin, culottée, si j'ose dire. On y voit un enfant faire irruption dans le salon et dire à son père, gros plan sur les deux visages, « Papa, j'arrive pas à dormir. Mais t'as mal, pourquoi tu souffles ? Et maman, elle est tombée ?»« Non, maman, elle est pas tombée. Elle se relève même, vu qu'elle était en train d'honorer buccalement son mari. » Même sur Canal+, c'est osé, non ? J'ai posé la question à la réalisatrice Zabou Breitman.
Oui, sûrement. Mais en fait, en même temps, une fellation bien faite, pourquoi pas, hein. C'est une question de qualité, c'est pas une question de sujet. C'était le code d'ouvrir chaque épisode avec une scène de sexe. Comme les codes sont bons à détourner, on a été dans le code. Là, on est complètement dans le code. Et puis après, moi, je me suis amusée, quoi, évidemment. Ce sont pas forcément nos héroïnes qui font la chose. J'allais dire, tout est ouvert. Donc, on s'est pas empêché de s'amuser.
Mmh. Oui, tout est ouvert. Alors, la genèse de ce projet hors norme.
La Genèse, alors, c'est une Bible écrite il y a, je crois, à peu près 4 ans par Maïwenn et Anne Berest. Maïwenn commence à développer, puis s'arrête, fait un long métrage. Là, le projet s'arrête, flotte, donc est en train de sombrer. Et puis, à un moment donné, les films du kiosque m'appellent en disant « Est-ce que tu ferais une série ?» J'étais à ce moment-là même en train d'écrire une série, que j'ai donc suspendue, dans laquelle je mettais plein de choses que j'ai mises plus tard dans Paris, etc. Forcément, j'ai dit oui parce que donc j'avais pas du tout le temps de le faire, parce que j'adore dès que c'est pas possible, ça me rend dingue, donc je me dis bon, on va le faire. Et j'ai demandé tout de suite à travailler avec Anne Berest, elle aussi qui pouvait pas parce qu'elle était en train d'écrire un roman, sublime d'ailleurs, avec sa sœur. Bref, Anne n'avait pas du tout le temps. Et pareil, elle a dit, ah, j'ai pas du tout le temps, mais je vais le faire. Ah oui, ça a été du délire total. On a fait ça donc en un an et demi, je pense, tout. Le kit avec livraison de la série, je pense que ça fait un an et demi.
Exactement, les deux ont réussi à fournir un épisode en 7 jours, tout en menant de fond leurs autres ce projet. D'où une discipline de fer pour tous les comédiens devant respecter un texte très écrit, de Valeria Bruni-Tedeschi à Bruno Todeschini, en passant par Neira Ayadi, Hippolyte Girardot et Zabou Breitman.
C'est très écrit, il y a très 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 peu d'impro. Donc il y a énormément de travail. On a passé des auditions avec tout le monde, même avec Valéria. Valéria a passé une audition, mais également le mec a 2 lignes de texte, il passait une audition.
Et tout le monde a accepté immédiatement ?
Moi j'ai failli refuser. Je n'aime pas me diriger et je n'aime pas jouer devant mon équipe. J'ai l'impression d'être à poil devant ma famille.
Oui, voire à poil tout court. Donc la suite sur Canal+, ce soir à 21h, il y a de très très bons moments. C'est vrai que ça va très vite, c'est très clipesque par moments, mais il y a de très bons moments.
Bon, bah, j'ai hâte. Alors sur TF1, la suite de La Vengeance aux yeux clairs.
Oui, je la trouve supérieure à la saison 1, moi, cette suite de La Vengeance aux yeux clairs. Et c'est une double activité pour Laetitia Milot qui revient aujourd'hui tourner dans Plus belle la vie, au moment où elle découvre qu'elle est enceinte après 10 ans de combat contre l'endométriose. Laetitia Milot, on peut dire que toutes les planètes s'alignent, comme dirait notre astrologue Christine Haas.
Ah oui, d'accord. Bah écoutez, oui, là en ce moment, de toute façon, je ne peux pas vous dire le contraire, étant donné que je suis enfin enceinte et qu'on attend ce bonheur depuis plus de 10 ans de combat. Je tiens à dire à toutes les femmes atteintes d'endométriose, tout est possible et j'espère donner un maximum d'espoir. Tomber enceinte, et ben voilà, c'est possible. On nous dit qu'il y a peu de chance, on nous dit que voilà, il va peut-être falloir trouver d'autres solutions. Ben voilà, tout est possible.
Oui, la suite ce soir, donc sur TF1 à 21h. Non seulement elle n'était pas enceinte, mais elle avait beaucoup maigri par rapport à la première saison. Et franchement, je la trouve réussie. Et on signale toujours sur TF1 l'arrivée, mais plutôt dans la soirée, de Mon plus beau Noël. C'est une nouvelle quotidienne qui doit permettre à quatre familles de s'affronter sur les plus belles décos de Noël. Alors moi, c'est très kitsch. Moi, qu'est-ce que vous voulez, j'adore ça. C'est présenté par Valérie Damido. Début du premier épisode ce soir.
Ah, Noël, c'est la fête qui nous replonge tous en enfance. Qu'on soit petit ou grand, on est tous émerveillés quand on place les décorations de Noël sur le sapin. Ou encore quand on prépare pour le réveillon la recette secrète que notre grand-mère nous a apprise. Bienvenue dans la compétition la plus folle jamais organisée pour les fêtes de Noël.
Oui, avec un mois d'avance, mais avant l'heure, c'est déjà un peu l'heure. Ça sent le sapin pour tous ceux qui aiment sanguirlandais. On fera le bilan en fin de semaine. C'est un peu comme le dîner était presque parfait. Hein. Oui, c'est une déclinaison d'un même thème, mais c'est Noël. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans quelques instants, on se retrouve avec toute l'équipe. Vous saurez si vous avez gagné donc la bande dessinée RTL 2017, parue aux éditions Futuropolis, signée JP, La Terre des Fils.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Monique Younes, oui. De quelle nationalité est JP ? Italienne ou espagnole, s'il vous plaît ?
Mais il est italien, JP.
Et je rappelle qu'il est l'auteur de La Terre des Fils, le Grand Prix RTL 2017 de la bande dessinée.
Bravo.
Vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné cet ouvrage magnifique que j'ai découvert grâce à vous ce matin. Merci beaucoup Monique, merci à toute l'équipe, on retrouve Julien Courbet.
Eh bien bonjour, merci, je suis super content de vous voir en forme.
Moi aussi.
Moi prêt à attaquer, plein de bonne humeur, je ne sais pas, la vie est belle ce matin.
Cette douce euphorie qui vous gagne, c'est agréable.
Exactement. Je sens que ça va être une belle semaine, mon Yves.
Ben allez, hop, c'est parti.
Allez, on y va. Et ça va démarrer. Alors, c'est peut-être pas une très bonne semaine, malheureusement, pour Marie Solène, qui va vous raconter cette histoire de serrurerie hallucinante. Écoutez ça.
On m'a pris 2746 euros pour une simple serrure bloquée. Depuis, j'ai découvert qu'il m'avait abusivement surfacturé et qu'en plus, le travail a été mal fait.
2746, c'est un peu cher.
C'est une serrure en or massif avec rétroviseur, FM intégré, machine à café Nespresso. Il y a tout dans la serrure. Allez, on s'en occupe. Merci, mon Yves.
Merci pour elle.
Vous écoutez RTL.